Chapitre 32. Jeannette va bien changer de caractère. Briceval, revenu de son premier étonnement, regarde Jeannette. Il ne peut concevoir que ce soit elle qui parle et qui parle ainsi de son amie à qui elle a tant d'obligations, de qui elle faisait les plus grands éloges. Ce ton froid et décidé lui en impose. Il s'adresse à Madame d'Héricourt. « Ma mère, qu'est devenue Mademoiselle d'Héranville ?» « Mon amie, elle est chez elle. On lui donne des soins qu'exige son évanouissement. »« Son évanouissement ? Infortunée ! Oncle cruel ! Elle n'était plus ! Tu me l'avais persuadée !» Jeannette est pâle. On voit qu'elle souffre, mais elle se contient et, se mettant à table, elle s'efforce de sourire à ses convives en leur disant « « Allons, messieurs, que cela ne nous empêche pas de fêter M. de Briceval. Il va lui-même présider à cette table. Oh, il estime trop sa femme et ses amis pour s'isoler de leur société le jour de son retour chez lui. » Briceval fixe Jeannette, fait quelques pas vers la porte d'entrée, puis, revenant, il s'assied près de sa femme et se contente de dire à Madame d'Héricourt « Ma mère connaît bien soin d'elle. » « Ne t'inquiète de rien, mon fils. Dans un moment, je monterai moi-même dans son appartement. » Le repas fut triste, comme on doit se l'imaginer. Les étrangers invités mangèrent seuls et se parlèrent à l'oreille ou fixèrent les maîtres de la maison pendant tout le dîner. Jeannette affecta de la tranquillité, de la gaieté même. Elle eut le plus grand soin du petit Auguste, dont elle connaissait maintenant les parents, puis elle eut la fermeté de présider aux illuminations, même aux feux d'artifice, auxquels elle força son époux d'assister. Qu'il était affligé, cet époux honnête et délicat ! Plus loin, nous le connaîtrons mieux. Quand tout le monde fut retiré, Jeannette voulut monter chez son amie. Mais Madame d'Héricourt s'y opposa. « Pourquoi donc, ma mère ? » dit-elle tout haut devant Briceval. « Mon mari et moi, nous désirons y monter ensemble, nous informer de sa santé. »« Ma fille, cela ne se peut pas. J'ai voulu vous cacher cela tant que cette cohue nous a gênés ici, mais elle est partie. »« Comment partie, ma mère ? Qui ? La cohue ?»« Et non, Mademoiselle d'Héranville. Revenue à elle, elle n'a fait que pleurer, gémir, puis elle a envoyé chercher une voiture. » Et, après m'avoir remercié de ce qu'elle appelait nos bontés pour elle, elle a profité de l'embarras où vous étiez tous deux pour se soustraire à vos regards et partir pour Paris. Ma mère, et vous avez souffert que malade, faible, souffrante ? J'ai fait l'impossible pour la retenir, je n'ai pu la déterminer à rester. Mais il fallait donc m'avertir ? Que veux-tu ? Je te voyais présider à la fête, et d'ailleurs, moi ? C'est une énigme pour moi que tout cela. Sais-je ce qui a donné lieu à son évanouissement, à votre extase à tous ? Et elle pleurait ? Sans doute elle pleurait, elle gémissait, elle disait entre ses dents « Et mon ami et son épouse, je ne trahirai point l'amitié, je partirai et jamais on ne me reverra. » Pauvre Cécile, elle m'apprend mon devoir. Jeannette tomba dans un fauteuil, ses mains sur les yeux, dont s'écoulèrent quelques larmes. Briceval, pâle et défait, laissa échapper ces paroles qui tirèrent Jeannette de sa rêverie. « Elle est partie, elle a bien fait, oui, oui, elle a bien fait. »« Bien fait, monsieur !» s'écria Jeannette en se levant et du ton de l'indignation. « Ne l'aimeriez-vous plus ?»« Madame, je dois maintenant... »« Mais vous savez donc ?» « Tout, monsieur, je sais que vous avez abusé lâchement de son sommeil chez la perfide de Linval. Je sais, en un mot, que cet enfant, ce prétendu Auguste, est son fils et le vôtre. »« Madame, qui a pu vous apprendre ?»« Elle-même. Cécile, avant que je vous connusse, m'avait tout conté. Mais vos changements de nom à tous, vos réserves avec moi, tout m'a dépaysé. » Si j'avais su que vous eussiez porté le nom de Saint-Ange, j'aurais été éclaircie et vous n'auriez pas eu la peine de prendre des détours pour introduire chez moi votre enfant. Madame, pardonnez, il est vrai, j'ai adoré Cécile, que je n'ai connue que sous le nom de Saint-Brice. Je sens, oui, je sens que je l'aime encore. J'en suis fâchée, monsieur, mais je suis votre épouse. Je le sais, madame, mais cette chère Cécile... « Je suis votre épouse, vous dis-je. »« Mon Dieu, madame, me croyez-vous capable de l'oublier, de manquer au devoir que l'hymen m'impose ? À moins, monsieur, que vous ne trouviez commode de divorcer pour entrer dans vos premiers liens. Ce ton d'ironie me surprend, madame, vous ne m'y avez pas encore accoutumée. Ne savez-vous pas que j'aborde le divorce et que je regarde ce moyen de rompre ses nœuds comme indigne d'un galant homme ? D'ailleurs, madame, m'avez-vous donné sujet d'en venir à cette déshonorante extrémité ? Je ne le crois pas, monsieur. Au surplus, laissons tout cela. Votre amante n'est plus chez moi, elle a senti qu'elle ne pouvait plus rester près de votre épouse. Je suis charmé qu'elle ait pris ce parti qui prouve la pureté de son âme, car, au fond, c'est une femme bien estimable. Oh, très estimable, et bien plus encore à mes yeux, depuis que je sais qui elle est et quels soins elle et ses parents ont pris de votre jeunesse. Je ne les oublierai jamais, ces soins généreux, mais en vérité, s'efforçant de sourire, ma reconnaissance ne doit pas aller jusqu'à lui céder mon époux. Cet époux chéri est d'un trop grand prix à mes yeux pour que j'en fasse le sacrifice. Ah, avec ironie, vous êtes bien bonne. Oh, plus que vous ne le pensez. Les deux époux se séparèrent, et cette nuit, qui devait leur offrir tant de jouissances après une si longue séparation, cette triste nuit les vit chercher séparément un repos qu'aucun d'eux ne put goûter. Avant de rentrer chez elle, Jeannette avait mis sa mère au fait de l'ancienne liaison de Briceval avec Cécile, et la bonne dame, tout étonnée, avait juré à sa fille que son frère ne lui avait jamais dit un mot de tout cela. Jeannette, au comble de l'étonnement et de la douleur, ne put dormir, et, quelque surprenante que dût paraître sa conduite, elle s'affermit dans le dessein qu'elle avait projeté. Lecteur, vous allez peut-être vous brouiller avec ma Jeannette, je le crains. Je suis cependant son historien, je dois ne rien lui passer. Mais daignez prendre patience, vous la jugerez à la fin. Bernard, le mari de Thérèse, était un garçon intelligent et d'une discrétion à toute épreuve. Au point du jour, madame de Briceval fit monter ce bon serviteur à cheval et lui ordonna d'aller en secret, sans débrider, à Paris, porter une lettre à monsieur de Verneuil, dont heureusement elle avait retenu l'adresse. Dans cette lettre, Jeannette apprenait à cet ami commun tout ce qui s'était passé. Elle le mettait au fait des liaisons de son époux avec Cécile et le priait de retenir, jusqu'à ce qu'elle l'ait vu, mademoiselle d'Hérenville, si toutefois elle s'était réfugiée chez lui. Elle l'engageait en outre à lui faire réponse par le même courrier. Bernard étant parti, Jeannette descendit au jardin où elle aperçut son époux qui l'avait devancé. Elle s'en approcha avec douceur. « Mon ami, vous avez mal reposé ?»« Très mal, madame. » »« Vous sentez bien que mon sommeil à moi a dû être aussi bien troublé ?»« À tort, madame, car enfin, en quoi tout cela pourrait-il vous affecter ? Je n'avais pas l'avantage de vous connaître lorsque j'ai vu, aimé, mademoiselle d'Hérenville. Je la retrouve. Eh bien ?» C'est un coup du sort qui ne peut changer votre position, car je suis marié, honnête homme, et de plus, je vous aime, je vous estime trop pour entretenir aucune liaison avec une autre, quand même je brûlerai toujours pour elle. Vous me parliez hier du divorce. Oh, comme ce moyen est loin de ma pensée. Moi, je ferai votre malheur. Jeannette, vous ne m'en croyez pas capable ? Ce n'est pas moi, soyez-en sûr, qu'on verra jamais venir à cette extrémité. On en abuse tant qu'elle est déshonorante. Et puis, que m'avez-vous fait, femme estimable et tendre ? Vous me préparez une fête, j'arrive, et vous découvrez chez vous une rivale et mon fils. Ah, c'est cela, Jeannette, qui m'affecte jusqu'aux larmes. Vous ne méritez pas un pareil chagrin. Monsieur, tant de franchise, une tendresse aussi forte, calme ce chagrin que j'ai dû avoir sans doute. Mais daignez m'apprendre comment vous avez pu contracter d'autres nœuds, aimant toujours une femme dont vous aviez un enfant. Car votre dernière lettre que j'ai vue, pardon, mais vous rappelez-vous qu'un soir, une madame Saint-Albin vous envoya chercher une dentelle ? C'est chez Cécile que vous êtes venue, elle n'y était pas, c'est moi qui vous ai reçue. Comment, Jeannette, c'était vous ? Il faisait nuit, je vous ai à peine distingué, mais en effet, quand je vous aperçus ici, votre figure ne me parut point du tout inconnue. Mais pouvais-je penser ? C'est donc là que je perdis le brouillon d'une lettre que j'avais commencée pour mon oncle. Je l'ai longtemps cherchée, mais alors je ne portais plus le nom de Saint-Ange. Et si vous aviez demandé à Madame Saint-Albin, elle vous aurait dit... Ce qu'elle m'a dit aussi, que le particulier qu'elle avait envoyé chez nous ne se nommait pas Saint-Ange. Elle ne me connaissait que sous le nom de Briceval, que nous avions eu le bonheur de faire réhabiliter. Ce nom était entaché d'un jugement infamant que les Déricourt avaient obtenu contre mon père. Mon oncle Jules, commandeur de l'ordre de Malte avant la Révolution, se faisait nommer Mellery et moi Saint-Ange. Il découvre mon amour pour la prétendue Saint-Brice, mon domestique infidèle lui apprend tout. Ce vieillard furieux me menace de sa malédiction, d'exhérédation, si j'ai l'audace d'engager ma foi avant d'avoir découvert la fille de Félix d'Héricourt que je dois épouser. Je l'avais promis à mon père mourant, il me mettait toujours cela devant les yeux. Le vieillard était violent, je le craignais, il m'en imposait. Dans l'impossibilité de donner ma main à celle que j'aimais, j'osais lui dérober son enfant, le mien, que je mis chez une nourrice qui m'était dévouée. C'est ainsi que, voyageant toujours avec mon oncle, je fis à son insu élever mon fils. Mais cet oncle malin, voulant arracher tout à fait l'amour de mon cœur, me lut une lettre supposée, à présent je le vois, de Madame de Servol de Calais. Cette amie nous apprenait que Mademoiselle de Saint-Brice venait de mourir à Paris. Vous jugez de ma douleur. J'aurais été capable de me rendre à Calais auprès de Madame de Servol pour prendre des renseignements plus précis sur ce malheur si nous n'eussions appris, quelque temps après, que Madame de Servol elle-même et son mari venaient d'être plongés au tombeau par une maladie contagieuse. Dès lors, je crus mon malheur certain. Ce n'est même que dans cette conviction, Jeannette, que je me suis décidée à obéir à mon oncle, à votre mère, aux mânes de mon père, en vous épousant. Tant que mon oncle a vécu, j'ai caché mon fils chez sa nourrice, mais après la mort de cet oncle, je n'ai pu résister au désir d'élever près de moi cet enfant d'une femme que je croyais ne plus exister. Voilà, Jeannette, l'exacte vérité. Votre mère elle-même ignore les secrets que je viens de vous confier. Mon oncle craignait trop qu'elle me refusât votre main si cette femme vertueuse avait su que j'en aimais une autre et que j'avais un enfant de l'amour. Il ne lui a jamais parlé de tout cela, mais vous voyez, par ma confiance, Jeannette, que votre époux vous estime, doit et veut vous aimer et faire constamment votre bonheur. »